France Inter.
Aujourd'hui, Méduse ou la gélification des océans, racontée par
Delphine Thibault, océanographe biologiste à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille.
Et Sébastien Lafont, auteur et réalisateur de documentaires.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
En Namibie, là où les pêcheurs ramenaient autrefois des filets pleins de sardines et d'anchois, les bateaux reviennent désormais alourdis par des masses translucides, compactes, presque opaques. Dans cette zone jadis l'une des plus productives du globe, ce ne sont plus les poissons mais des dizaines de millions de méduses qui occupent l'espace. En quelques décennies, la sardine a cédé la place à 14 à 40 millions de tonnes de méduses. Dans un pays où les oiseaux de mer s'en vont faute de nourriture, où les chalutiers doivent couper leurs filets tant ils sont écrasés par la gélatine, les biologistes parlent d'un paysage océanique renversé. En août 2025, la centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord, a dû arrêter quatre de ses unités, non pas en raison d'un problème technique, mais à cause d'une présence massive et non prévisible de méduses dans les systèmes de pompage destinés au refroidissement des réacteurs. Une centrale européenne bloquée par des organismes gélatineux, la scène ressemble à une science-fiction, mais elle dit quelque chose de très réel sur la force discrète de ces animaux, capables de perturber les infrastructures les plus massives. Ces deux histoires témoignent d'un phénomène que les scientifiques décrivent comme une gélification de l'océan. Là où les poissons manquent, les méduses s'engouffrent, elles tirent parti de tout, de la disparition des prédateurs, du vide laissé par les sardines et les anchois, de l'eutrophisation, du transport maritime, des infrastructures flottantes et même du plastique qui sert de support aux polypes. Les méduses ne craignent ni le réchauffement climatique, ni la baisse d'oxygène, ni la pollution. Elles traversent les perturbations que nous infligeons à l'océan et pour certains chercheurs, elles semblent particulièrement bien adaptées pour le 21e siècle, elles qui survivent depuis plus de 500 millions d'années. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Je suis sur Terre depuis 650 millions d'années. J'ai vu apparaître les poissons et disparaître les dinosaures et j'ai conquis toutes les mers du globe. Je mesure une vingtaine de centimètres de diamètre, tout en délicatesse et en transparence. Je suis Aurelia Aurita. Appelez-moi Aurélie. Vous m'avez donné le nom un peu triste de méduse commune. Mais vous aviez tout faux, car je suis extraordinaire. Je suis un cnidaire, la même famille que les anémones et les coraux. Je suis la simplicité incarnée.
Extrait du documentaire Méduse, les souveraines des océans. C'est à voir en ce moment sur la plateforme d'Arte. Delphine Thibault et Sébastien Lafont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Sébastien Lafont. C'est vous qui réalisez ce documentaire, qui est à découvrir donc en ce moment, l'occasion de parler de ces organismes qui font partie des rares espèces à profiter des activités humaines et du réchauffement climatique pour proliférer. Comment d'abord tous les deux, est-ce que vous avez été amené à vous intéresser aux méduses, vous, Delphine Thibault, en tant que scientifique?
Alors moi, c'est un amour qui remonte à peu près 25 ans.
Ah, carrément un amour.
Un amour, ah oui. Et en fait, mon site d'étude était le Pacifique Nord. Et au lieu d'avoir des petits crustacés dans mes échantillons, comme attendu, je me suis retrouvée avec des masses de gélatineux. Et c'est à une époque où on s'est rendu compte que, justement, méduses et autres jouaient peut-être un rôle beaucoup plus important que ce que l'on pensait au XXe siècle. Et on est plusieurs à avoir dédié un peu plus de nos activités vers la compréhension de ces organismes.
Donc de la contrariété relative du départ, vous avez fait un objet de recherche, c'est ça, hein ?
Tout à fait, tout à fait, de mieux comprendre justement leur rôle, parce qu'avant, c'était des organismes qui n'avaient aucun intérêt, et on s'est rendu compte avec les études que c'est très loin d'être le cas, et qu'ils jouent un rôle important dans nos écosystèmes.
Et 650 millions d'années de fréquentation, donc... Chapeau bas les méduses quand même.
Respect. Respect, elles sont là depuis longtemps et elles vont rester. Il faut juste mieux les comprendre et mieux comprendre les raisons éventuellement de leur surpopulation dans certains endroits de la planète.
Sébastien Lafont, pour vous, alors, comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser aux méduses en tant que réalisateur ?
Alors moi, c'est par accident. C'est un collègue qui m'a repassé le dossier parce qu'il y avait pas mal de modifications à y apporter pour Arte, et lui se sentait pas de le faire. Et j'ai eu la chance que la première scientifique que j'ai contactée et qui a bien voulu me répondre au téléphone, c'était Delphine Thibault, qui m'a guidé à travers cette espèce, enfin ce genre du plancton gélatineux, et qui m'a indiqué énormément de collègues, hein, parce que c'est une bande, tout le monde se connaît, hein, de l'Afrique du Sud à la Norvège, en passant par les États-Unis et le Japon. Ils sont pas très nombreux à s'intéresser aux gélatineux en général et aux méduses en particulier. Et j'ai eu de la chance que Delphine me prenne sous son aile.
Delphine Thibault, est-ce que c'est exact de dire que les méduses comptent parmi donc les tout premiers organismes apparus sur Terre ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est dans ce qu'on appelle les organismes pluricellulaires, avec plusieurs cellules à être apparues sur notre planète. On a aussi les cténaires, qui sont aussi des gélatineux, qui seraient les premiers. Mais oui, c'est notre planète, au début, était fortement représentée par ces organismes un peu mous.
Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méduse exactement ? Parce qu'on apprend d'ailleurs dans le documentaire que bon nombre d'organismes gélatineux ne sont pas des méduses. Hein. Ça fait partie d'un groupe particulier ?
Alors oui, les méduses, ce sont des cnidaires, et chez les cnidaires, c'est le groupe des scyphozoaires auquel normalement on peut donner le nom de méduse.
Alors c'est quoi la particularité alors ?
Alors c'est des méduses qui vont avoir une cloche plus ou moins importante, des tentacules, mais aussi des bras. Alors ils ont comme quatre grandes lèvres ou quatre grands bras qui vont leur servir à s'alimenter. Oui. Et aussi la présence, entre autres, de systèmes visuels, hein, comme des yeux, le long de la cloche. Et bien sûr, hein, comme tout cnidaire qui se respecte, des cellules urticantes, plus ou moins impactantes, on va dire, chez l'être humain, qui servent à l'alimentation, en fait, à capturer des proies qui, elles, peuvent aller vite, alors que quand on est méduse, on ne va pas très vite. Et donc, ces cellules urticantes ont un rôle principalement dans l'alimentation.
Sébastien Lafont, votre film montre une grande diversité, assez étonnante d'ailleurs, hein, de ces êtres gélatineux, du millimètre aux méduses géantes. Il y a une panoplie absolument incroyable.
Ah bah c'est... Moi, je ne connaissais que les méduses, celles qui nous piquent, Pelagia en Méditerranée, les méduses mauves. Et j'ai découvert qu'effectivement, le groupe était gigantesque, qu'on en découvre des nouvelles espèces tous les ans. Et que parmi ce groupe des gélatineux, les siphonophores, me fascinent particulièrement parce qu'ils sont chaque individu qui forme une colonie est identique. C'est des créatures qui se clonent les unes les autres pour finalement faire un être, un animal unique avec des fonctions de reproduction, de digestion, de prédation, de...
Et ça, c'est une méduse en particulier ?
Ça, c'est, alors les galères portugaises, donc avec cette espèce de poche qui flotte et qui sont extrêmement urticantes et dont on en voit de plus en plus sur les côtes atlantiques, font partie de ce groupe des siphonophores.
Ouais.
Donc c'est pas un individu, c'est une colonie d'individus qui se clonent. Voilà,
Delphine Thibault, il faut beaucoup plonger pour observer les méduses. Ça fait partie de votre travail quotidien quasiment ?
Alors oui, ça fait partie de notre travail quotidien. Après, on a aussi d'autres outils. Hein. On peut utiliser des filets à plancton. Et actuellement, on va aussi vers l'utilisation de robots sous-marins, de caméras vidéo, parce qu'il y a malheureusement des profondeurs auxquelles on ne peut pas aller en plongée. Et il faut comprendre que ces organismes ne sont pas obligatoirement sous la surface des océans, mais peuvent être présents dans les grandes profondeurs. Pelagia noctiluca en Méditerranée, dans la journée, normalement, elle est à 400-600 mètres de fond.
Ouais. Et c'est votre objet d'étude principal d'ailleurs, espèce-là ?
C'est une des espèces, c'est pas la seule, mais c'est celle qui nous concerne le plus à Marseille.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Pelagia ?
Elle a plein de particularités. Déjà, se faire ce cycle nyctéméral, ce cycle jour-nuit entre... je suis dans la journée au fond, je remonte à la surface me nourrir le jour. Et c'est une des rares espèces de méduses qui n'a pas la forme polype dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est une forme... forme qui peut s'attacher sur différents substrats donc, ouais. Et être peut-être favorisé quand on va développer de l'éolien offshore ou des plastiques. Mais Pelagia n'a pas cette forme-là. Donc elle a un cycle de vie qui est beaucoup plus court et beaucoup plus simple que d'autres méduses.
Et puis elle produit de la lumière quand même.
Alors il y a beaucoup de méduses qui sont bioluminescentes, et, ce qui est aussi très intéressant parce que ces lumières qu'on peut voir dans les grandes profondeurs ont un rôle soit de répulsif, soit au contraire pour essayer d'attirer les proies pour leur alimentation.
Sébastien Lafont, votre film montre la migration verticale quotidienne des méduses. Ça, c'est un phénomène majeur à raconter quand même.
Bah, c'est la plus grande migration animale au monde. C'est ce plancton qui remonte à la surface la nuit pour se nourrir parce qu'il se cache la journée pour pas se faire manger. Et parmi ce plancton qui remonte, oui, il y a ces méduses casques dans ce fjord, le Lurefjord en Norvège. Ces espèces de fantômes des abysses qui remontent la nuit.
Par milliards.
Alors elles sont extrêmement nombreuses dans ce fjord. Elles ont colonisé ce fjord et a priori leur impact est gigantesque dans le fjord. Il y a plus beaucoup de grands poissons dans ce fjord tellement il y a de méduses. Ouais.
Delphine Thibault, quand justement on voit arriver Pelagia noctiluca par exemple sur nos côtes méditerranéennes, c'est le signe de quoi en fait écologiquement parlant?
Alors c'est un signe qui est relativement complexe. Il faut comprendre que ces organismes, même s'ils font plusieurs mètres de long, c'est du plancton qui est transporté par les courants. Donc elles ont très peu de capacité à aller dans un autre sens que celui du courant. Elles peuvent monter et descendre, bien évidemment, mais elles vont être transportées par les courants. Donc ça veut dire que quand on les voit arriver à la côte, c'est que les courants qui étaient plutôt vers le large se sont rapprochés des côtes. Parce que ces organismes vivent entre la Corse et le continent et suivent ce qu'on appelle le plateau continental.
Donc c'est pas une volonté de la méduse de venir plus près des côtes ?
Absolument pas. C'est pour ça que quand on dit qu'elles ont attaqué les nageurs du Monte Cristo. Non, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont malheureusement transportées. Et dans le cas de Pelagia, comme elle est plus capable de migrer jusqu'à 300-400 mètres de fond où l'eau est à 13,5 degrés, elles sont généralement fortement abîmées quand elles arrivent sur nos côtes. Et donc, elles n'ont pas du tout envie de venir là. Donc, c'est pas un choix et elles préféraient être ailleurs. Donc, c'est vraiment les courants. La modification des courants qui font qu'elles sont là.
Et alors, il y a des cycles réguliers, justement, ou pas du tout? C'est très aléatoire, précisément, parce qu'il s'agit des courants et...
Voilà, il s'agit des courants. C'est très compliqué de voir ce qui se passe dans une baie et de comparer à celle d'à côté. Ça va dépendre des vents et donc des courants. Là, on a des flux de sud relativement importants ces dernières années, peut-être plus propices à l'arrivée des méduses. Mais à Marseille, on sait très bien que ça sera après une période de mistral où on aura l'arrivée des méduses.
Ouais. Vous faites tout un travail aussi sur le génome des méduses, avec un programme qui s'appelle Atlas C. Qu'est-ce que vous espérez comprendre, en fait, en faisant ce boulot?
Alors, le programme Atlas C a pour le but de recenser 4500 génomes marins. Donc, c'est financé par le CNRS et le CEA. Et on espère pouvoir, au mois d'avril, récupérer toutes les espèces possibles et justement pouvoir séquencer leur génome pour pouvoir, après, avec des approches d'ADN environnemental, être sûr que quand on aura cette séquence d'ADN, on a réellement cette espèce-là. Pour le moment, les banques de données ne sont pas assez fiables pour être sûres de ce qu'on va pouvoir observer ailleurs.
Les méduses, elles nous fascinent, mais certaines proliférations interrogent. Qu'est-ce qu'elles racontent justement du changement de nos océans? On va en parler dans un instant. Et puis vous répondrez à tous les messages qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré, sur nos réseaux sociaux. Et puis pour vous entendre avec les notes vocales sur l'appli Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Ils étaient partis pour traverser 5 km à la nage. Mais la course a tourné court à peine 5 minutes après le départ pour de nombreux participants.
Il y avait un joli banc de méduses qui nous attendait. Donc là, du coup, on a tous nagé comme on pouvait dans tous les sens. C'était ambiance titanique, mais bonne ambiance quand même. Mais tout le monde se faisait piquer à tour de rôle.
Là, c'est vrai qu'on a un climat qui est hyper changeant, avec de l'eau chaude qui était très chaude il y a 15 jours. Les variations de température, en général, c'est là où peuvent après se déplacer avec les courants, les méduses. Donc c'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé la première année où là par contre c'était un tapis de méduses et là où nous avons dû cette fois-ci annuler purement et simplement la course.
La voix de Dominique Léna, directeur du défi Monte Cristo, c'était sur BFM Marseille en 2022. Nous sommes avec Delphine Thibault et Sébastien Lafont, on parle méduse cet après-midi, à l'occasion d'un documentaire que vous pouvez découvrir en ce moment sur la plateforme d'Arte, ça s'appelle Méduse, les souveraines des océans. Delphine Thibault, vous qui êtes marseillaise, ce défi donc Monte Cristo, il faut s'habituer à nager au milieu de la gélatine maintenant ?
Oui et non, oui, on a des phénomènes qui sont assez récurrents sur Marseille. On voit Pelagia noctiluca revenir en banc important dans la baie. Mm-hmm. Et on sait plus ou moins quand est-ce que ça peut arriver. Donc on peut soit faire annuler la course. On sait très bien qu'après un grand coup de mistral, les méduses se trouvent au large et elles vont être amenées par ce qu'on appelle la relaxe du mistral, c'est-à-dire l'eau du large revient à la côte, donc l'eau chaude du large revient à la côte qui s'était refroidie avec le poêling et ramène avec elle son lot de méduses. Mais ouais. Elles n'ont pas choisi de venir embêter les nageurs.
Sébastien Lafont, votre documentaire montre plusieurs lacs ou étangs. Pourquoi est-ce que ce sont des bons laboratoires pour comprendre justement le phénomène des méduses ?
Parce qu'il y en a énormément, parce que les concentrations sont dingues. Quand on regarde l'étang de Berre ou l'étang de l'Or, où on a tourné avec Delphine, c'est vrai que c'est des eaux qui sont saturées de méduses, alors de cténophores en particulier à l'étang de l'Or, qui est un autre plancton gélatineux assez remarquable d'ailleurs. Mais oui, c'est surtout le nombre qui est impressionnant dans ces endroits. On voit qu'il y a du coup plus de courant pour les disperser, donc elles se multiplient.
Avec beaucoup d'infrastructures aussi, qui expliquent que les méduses s'adaptent très très bien au milieu.
Alors là, je vais laisser Delphine, par contre, répondre plus précisément sur cette question-là.
Delphine Thibault, alors, parce que c'est vrai qu'on voit qu'entre la surpêche, la pollution, le climat et les infrastructures, en fait, les méduses ont de très très bonnes capacités d'adaptation. Hein.
Alors, elles sont très plastiques, en fait, dans beaucoup de leurs caractéristiques. C'est qu'elles sont capables de survivre dans des conditions de température, de salinité et d'oxygène qui sont bien plus larges que la plupart des autres organismes. C'est pour ça que quand on a des phénomènes de diminution d'oxygène, à la sortie des fleuves. Tous les organismes qui peuvent nager, les poissons, ceux qui peuvent se déplacer, les crustacés vont partir. Et ceux qui vont rester, en fait, c'est ces méduses parce qu'elles, le courant les a amenées là et elles peuvent supporter ces conditions-là. Donc elles sont vraiment des exemples d'un signal qui dit les choses ne vont pas bien. C'est pas elles vont pas bien aller, c'est elles vont pas bien. C'est vraiment un signal d'alarme important et on l'a vu dans le cadre de phénomènes de surpêche au large de la Namibie, entre autres, hein, où on a enlevé les compétiteurs, donc des poissons qui mangent la même chose que les méduses. Ouais. Et donc si on enlève les compétiteurs, la nourriture est disponible et les méduses vont en profiter.
Sébastien Lafont, le cas de la Namibie, c'est assez spectaculaire hein, ce qui s'y passe. Hein.
Oui, c'est vraiment un exemple d'écosystème qui est gélifié depuis plus de 50 ans hein, maintenant, et on voit que le point de bascule est il y a très longtemps, et l'écosystème ne s'est pas remis, les poissons ne sont pas revenus parce que les eaux sont saturées de méduses et qui mangent tous les œufs, toutes les larves de poissons.
Donc ça décime absolument.
Ah oui,
elle profite
du vide qui a été créé par cette surpêche. Au lieu d'instaurer des quotas quand ils ont vu les effectifs de sardines diminuer, ils ont réduit la taille des mailles des filets pour capturer les poissons juvéniles, les sardines juvéniles. Oui, alors erreur, ouais. Ouais, c'est ça, il fallait pas le faire. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Mais on se rend compte que bien que l'océan soit un milieu qui ait des capacités de résilience assez exceptionnelles, dans ce cas précis, au large de la Namibie, c'est pas le cas en fait. L'écosystème ne s'est pas remis.
Les activités humaines sont très bénéfiques hein, visiblement aux méduses, Delphine Thibault. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de gélification, alors qu'évidemment très impressionnant et qui parle de lui-même, mais est-ce qu'il y a une gélification à l'échelle du globe ou pas ?
Alors non, on ne peut pas parler à l'échelle du globe. On a quelques exemples, la Namibie, on a eu la mer Noire, on a quelques lagunes côtières. matière qui présente des caractéristiques dominantes de gélatine, quelle qu'elle soit, méduse ou ténère. À l'échelle du globe, non, on peut pas le dire.
Donc ça reste quand même très localisé.
C'est très localisé, mais c'est très impressionnant là où ça se passe. Et on se dit que une approche au niveau de l'écosystème est extrêmement importante pour que justement ça se reproduise pas ailleurs.
Oui, mais ce sont les zones surexploitées, justement.
Très souvent, c'est
autour
des
de la
zones,
pêche.
Tout à fait.
Où
c'est...
on constate la présence massive de méduses.
La mer Noire, c'était le même problème. Il y avait une surpêche sur les petits poissons pélagiques, comme en Namibie. Et on a enlevé, vraiment, c'est les compétiteurs. Les prédateurs, en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Mais c'est vraiment un phénomène au niveau des compétiteurs, ceux qui mangent la même chose que les méduses, que le problème se pose.
Ouais. Est-ce que les méduses ont des prédateurs, d'ailleurs ?
Alors, au départ, on pensait aux poissons-lunes, on pensait aux tortues. Mais en fait, il y a une multitude d'espèces et de groupes d'organismes. Ça va, il y a plus de 150 espèces de poissons qui ont été recensées mangeant de la méduse. Le bogue en Méditerranée, entre autres, le thon rouge... ça a été aussi les albatros, beaucoup, beaucoup d'oiseaux de mer, les crustacés, et puis une espèce un peu connue, l'homme.
Oui, c'est ça, j'allais vous dire, la pire des espèces, c'est quand même nous. Hein.
La pêcherie aux méduses au niveau mondial est la deuxième plus grosse pêcherie après le poisson.
Et qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, je suis désolée, j'ai failli vous en amener, mais j'en avais pas là où j'étais.
C'est gentil.
On le mange, on en fait des extractions pour du collagène, pour faire des crèmes. On essaye aussi d'exploiter les toxines pour lutter contre certaines maladies humaines. C'est plein de ressources, mais voilà, l'alimentation humaine dans les pays d'Asie est extrêmement importante.
Vous en avez mangé vous-même des
méduses ? Oui, j'en fais régulièrement.
Ah, vous en faites régulièrement, c'est vrai ?
Oui, en tempura, en salade. J'ai même fait des biscuits avec de la farine de méduse.
D'accord. Donc, il faut le transformer pour que ce ne soit pas justement trop gélatineux, j'imagine. Hein.
Oui, c'est un petit peu asséché. Et après,
Sébastien Lafont, vous avez goûté, vous, pour le documentaire ou pas ?
Alors,
vous n'êtes pas allé jusque-là,
non,
visiblement.
Je ne suis pas allé jusque-là.
Très bien. Moins d'1% de sardines d'origine subsistent aujourd'hui en Namibie. Hein, c'est ce qu'on apprend dans ce documentaire. Donc, c'est un véritable effondrement. Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière ? Est-ce que les sardines pourraient revenir dans ce pays, par exemple, où maintenant on considère que c'est quasiment impossible ?
Ah ben, Jean-Paul Roux, le scientifique français qu'on interviewe, qui est un grand spécialiste de cette côte namibienne, qui l'étudie depuis le début, lui, il constate aucune amélioration. Et puis, pire que ça, lui étudie les répercussions de ce basculement de l'écosystème sur les espèces qui sont à terre, donc les otaries à fourrure, les oiseaux. Et en fait, on se rend compte que la disparition des poissons remplacés par les méduses a eu des répercussions à la chaîne sur tout l'écosystème, que ce soit dans l'eau ou sur la côte. Donc, c'est vraiment un changement qui est radical, et pour l'instant on voit aucune amélioration.
Quelles seraient les solutions, Delphine Thibault, si vraiment on décidait de s'attaquer au problème ? Faudrait arrêter tout simplement la pêche dans le secteur ?
En fait, en Afrique du Sud, ils ont eu la bonne idée de justement mettre des quotas de pêche. Et on voit très bien, quasiment, pour l'avoir vécu, qu'on a une limite avec la frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud, où au nord on a des quantités gigantesques de méduses, et au sud, plus du tout le cas. Donc,
Parce qu'on a réussi à...
Mais c'était à l'époque, dans les années 80, il y a eu quelque chose qui a été fait par le gouvernement sud-africain, qui n'a pas été appliqué par le gouvernement namibien. Et je pense que moins bien appliqué par le gouvernement namibien, et ça fait que on est dans un état là où en tant qu'humain, on n'a pas trop de moyens, on ne peut pas récupérer toutes les méduses, parce que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de méduses, qu'elles se reproduisent très rapidement, et on ne sait pas trop, on ne sait pas faire.
Le lien avec le réchauffement climatique, est-ce qu'il est clairement établi là aussi ou pas ?
Alors, le lien...
Parce qu'on dit que les méduses s'adaptent très bien et qu'au contraire, plus ça va se réchauffer et plus elles seront heureuses.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme tout animal, en fait, elles vont capables de vivre entre deux extrêmes de température, un chaud et un froid. Et il est fort possible que pour certaines, on atteigne aussi une température maximale qui leur sera délétère. On voit très bien avec Pelagia. Pelagia a besoin de descendre dans les profondeurs pour justement ne pas être exposée à des températures trop élevées. Donc, ça fait partie de son cycle journalier d'aller à 14 degrés. On dépense moins d'énergie, on remonte se nourrir la nuit en surface où il fait plus chaud. Donc, ce n'est pas obligatoirement un lien direct avec la température. Mais ouais. C'est un lien éventuellement avec les courants qui, eux aussi, dépendent des températures qu'on observe dans les océans.
Sébastien Lafont, on voit de très belles méduses des abysses aussi hein, dans votre documentaire, avec vraiment alors, des créatures qu'on n'imaginerait même pas. Hein. On dirait de grosses araignées, en fait.
Ah, mais il y a des... Oui, elles revêtent des formes fascinantes. Nous, on a pris un plaisir immense à filmer ces méduses... On a passé un temps infini devant les bassins de l'aquarium de Paris où on était hypnotisé par les méduses. Il fallait que je réveille mon caméraman de temps en temps
pour lui dire d'hypnotiser
bon,
les...
là Patrick, je crois que c'est bon là. On a tout ce qu'il faut.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette discussion. On va voir comment on peut réagir à ces signaux quand même que nous envoient les méduses et puis comment aussi réapprendre à les percevoir autrement, parce qu'elles ont mauvaise réputation, mais elles ont un rôle écologique très très important. Et puis vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Leurs balais délicats sont envoûtants, presque hypnotiques. Elles n'ont ni cœur, ni cerveau, ni squelette. Et sont constitués à plus de 90% d'eau. Pourtant, en Méditerranée, au cœur des fjords norvégiens ou encore au large des côtes de Namibie, on assiste à une prolifération inquiétante de ces animaux qui portent un nom, la gélification. Les méduses sont-elles en voie de dominer les océans ?
Extrait de ce documentaire Méduses, les souveraines des océans sur Arte en ce moment. C'est ce documentaire que vous avez réalisé, Sébastien Lafont, et on en parle avec l'une de vos incarnations, puisqu'on vous voit dans ce documentaire, Delphine Thibault. Justement, vous montrez que les méduses ne sont pas forcément que des problèmes, parce qu'il y a effectivement cette gélification, mais il y a un enjeu aussi de perception à offrir aussi aux téléspectateurs hein, par rapport à ces organismes.
Oui, c'est ce que Delphine disait tout à l'heure. On pensait que c'était un cul-de-sac trophique, les méduses, jusqu'à il y a très peu de temps, finalement. On pensait qu'une méduse, elle naissait, elle vivait, et puis que quand elle mourait, elle tombait au fond, et puis elle nourrissait personne, et puis elles n'étaient pas vraiment parties du cycle de la vie océanique. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'elles sont bien plus importantes que ça. Et qu'elles ont un rôle à part entière à jouer dans l'océan. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film, de ne pas se focaliser que sur les inconvénients que ces animaux pouvaient créer, mais qu'il fallait les respecter et qu'elles avaient toute leur place à jouer
Delphine Thibault, un océan sans méduses, ce serait aussi un problème hein.
Ah, certainement.
C'est ce que l'un des intervenants dit dans le film.
Oui, non, bien sûr. Hein, si elles sont sur Terre depuis si longtemps, c'est qu'elles ont un rôle et que un écosystème fonctionnel, on va y retrouver aussi des méduses. Donc, parce qu'en fait, elles ont plein de rôles. Elles servent aussi de rôle de protection, un peu comme l'anémone de mer et le poisson clown à d'autres espèces. Elles servent d'alimentation, elles servent de refuge, elles servent de zone de ponte aussi d'autres organismes. Elles ont plein de rôles. Et encore, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas.
Donc, c'est une question d'équilibre, en réalité, entre les zones vraiment où là, on a cette gélification et puis des zones où il n'y aurait aucune méduse.
Voilà, il faut trouver un écosystème. C'est composé de différentes espèces avec des fonctions et des rôles différents et chacun y trouve normalement sa niche. Et si tout est bien géré entre eux.
Dans le meilleur des mondes.
Avec, on va dire, un impact anthropique moindre, tout devrait mieux aller.
Vous me disiez pendant la pause que les méduses sont capables de s'auto-digérer.
Oui, en fait, une méduse, c'est pas parce qu'on va pas la nourrir qu'elle va mourir. Il y a certaines espèces qui ont montré des capacités de résistance aux jeunes qui sont absolument incroyables. Hein. On parle de semaines, voire de mois, pour certaines.
Mais c'est plus que du jeune, c'est-à-dire qu'elle est capable de manger elle-même.
Voilà, c'est qu'en fait, avant, on réduit leur taille. C'est pour ça que si on voit une petite ou une grosse méduse, souvent, on sait pas quel âge elle a. Parce que ça va être fonction de la quantité de nourriture qu'elle a eue à sa disposition.
Donc, si elle n'a pas de nourriture sous la main, elle se mange elle-même.
Voilà, va digérer ce
tissu. C'est drôlement pratique, ça, dites donc.
Ouais, mais ça marche pas sur l'être humain.
C'est bête.
C'est dommage.
Quel dommage. Sébastien Lafond, certaines proliférations peuvent avoir, on en parlait rapidement tout à l'heure dans la présentation, des impacts directs comme l'arrêt partiel de centrales nucléaires. C'était le cas de Gravelines cette année. Vous confirmez donc ?
Ah ben ça a mis des porte-avions nucléaires à l'arrêt, des centrales nucléaires dont les systèmes de refroidissement sont bouchés par les méduses.
Ouais.
Nous on a tourné un sujet dans les fjords de Norvège où l'aquaculture a été touchée par des invasions de siphonophores il y a quelques années qui ont fait vraiment des dégâts énormes parmi les poissons d'élevage dans ces fjords.
Ouais.
Donc et puis plus le tourisme, parce que effectivement, quand il y a des gros arrivages de pélagiens en Méditerranée, surtout l'été, ça a des répercussions financières qui sont très importantes.
Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe alors
Juste par précaution, on n'a pas des méduses mortelles en France, mais ça peut être très urticant. On peut avoir des personnes qui peuvent faire des malaises. Donc, il est évident que dès qu'on voit un arrivage massif de méduses, hein, les surveillants de plage, la police, les pompiers, hein, sont en alerte et les gens commencent, je pense, à comprendre maintenant qu'il vaut mieux pas aller dans l'eau.
Donc, est-ce qu'on peut les anticiper ? Alors, c'est les blooms, c'est ça ? C'est ces explosions
Des agrégations, ouais. Des blooms. Alors, on essaye de faire de la prévision d'arrivée de méduses.
C'est facile ou pas, ça ?
Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce qui va marcher avec une ne va pas obligatoirement marcher avec l'autre espèce. Et souvent, on s'appuie sur des modèles de dynamique des courants. Et la précision de ces modèles n'est pas encore suffisamment fine,
oui,
pour faire une prévision qui fonctionne vraiment. C'est vraiment là, avec mes collègues océanographes physiciens, qu'il faut qu'on arrive à avoir des modèles très précis pour pouvoir vraiment avoir une prévision qui soit efficace et pas dire non, ça va venir dans cette belle-là et en fait si, ça vient là.
Oui.
Donc, on peut comprendre, hein, que les touristes ont envie de profiter de la mer, mais c'est aussi, ils peuvent aller profiter de l'arrière-pays provençal, c'est très joli aussi.
Ils peuvent s'adapter comme le font très bien les méduses.
Tout à fait,
elles aussi. Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et nous avons ce message de Daniel qui nous écoute et qui nous dit que d'autres organismes gélatineux, elle nous signale en tout cas l'échouage massif sur les côtes de Bretagne Sud de Vélel. Ce sont des méduses, justement, ça ?
Alors, ce sont des hydroméduses, ouais, des hydrozoaires. Il y a des échouages massifs. Hein. Moi, j'étais à la Baule encore ce matin.
Elle le dit la semaine dernière, vraie marée bleue. Elle dit très jolie, mais plutôt inquiétant comme phénomène, non ?
Alors, on a des flux de sud, hein, dans le golfe de Gascogne jusqu'au fond de la Bretagne actuellement, qui sont très favorables a priori à l'arrivée de ces hydroméduses. Elles sont plus fréquentes au printemps mais aussi à l'automne, donc c'est pas inattendu de les voir, mais c'est vrai que là les courants font qu'elles ont été plus ramenées à la côte.
Gwenaël nous dit, en avril 2025 ont eu lieu des échouages massifs de méduses en baie de Marseille et sur la côte bleue, dont la décomposition a ensuite dégagé une odeur vraiment pestilentielle pendant plusieurs semaines. À quoi sont dus ces phénomènes ponctuels ?
Alors c'est la même espèce, hein. C'était des échouages massifs de Vélel à l'époque, et c'est vrai que même si c'est 90% d'eau, ben, il reste un petit peu de matière organique. Et comme toute matière organique, elle va se dégrader, et en se dégradant, ben, ça donne cette odeur qui n'est pas très sympathique. Et le problème, c'est que souvent, il y a des échouages avec les posidonies. On ne peut pas nettoyer les plages de posidonies en Méditerranée française. Donc, faut juste attendre que le temps fasse
son
effet,
œuvre.
Voilà.
Gilles demande de quoi se nourrissent les méduses exactement.
Alors, on va dire que les méduses vont se nourrir de petits crustacés, souvent des petits copépodes ou des petites larves de crabes, des larves de crevettes, mais aussi des œufs et des larves de poissons. C'est là où l'interaction avec les stocks de poissons pélagiques est problématique. Certaines aussi, quand elles sont jeunes, peuvent manger du phytoplancton. Donc elles ont un régime alimentaire assez large.
Sébastien Lafond, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Benjamin demande s'il peut y avoir des débouchés économiques à l'exploitation des méduses. Vous confirmez, hein, c'est ce que vous disent vos invités en tout cas.
Bah, Oui, alors le collagène dont on se rend compte que il est très utile pour nous autres êtres humains il est très pur chez beaucoup de méduses, donc je pense que c'est un vrai débouché l'alimentation aussi. D'ailleurs, les Nations Unies recommandent de manger des méduses parce que on en a plein et que on les mange pas assez pour l'instant. Et puis moi, je pense que dans la recherche va nous montrer que il y a énormément de choses à apprendre des méduses et de leur étude. Je pense que c'est encore un domaine qu'on n'a pas tout à fait dont on n'a pas atteint le fond.
Une question très importante de Thomas, est-ce qu'il est vrai que se faire pipi dessus aide quand on se fait piquer? Alors ça, c'est le grand classique. C'est efficace ou pas?
Non, c'est pas efficace.
Aïe.
Alors, il faudrait se faire pipi dessus pendant 40 minutes. Parce que
40 minutes?
Ben oui, c'est parce que normalement, c'est 40 minutes, 40 degrés.
Ah oui,
donc, on est à 37 degrés et quelques. Oui. Non, il faut pas mettre d'eau froide, il faut mettre de l'eau chaude à 40 degrés pendant 40 minutes. Vous allez au robinet du premier bar qui se présente ou au poste de secours. Et,
eau chaude.
Eau chaude.
Directement.
Et ça ça va, en fait, la toxine est thermosensible, donc elle va être dégradée au contact de la chaleur. Mmh. Mais la première chose à faire, c'est sortir de l'eau et de se mettre dans un endroit sécurité pour pas risquer.
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand on se fait piquer, en fait? Qu'est-ce qu'on a? C'est des petits éperons
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est des cellules, ce qu'on appelle des cnidocystes, hein, qui vont. Ils ont un petit cil qui va être le facteur déclenchant. Hein, et cette cellule, à l'intérieur, il y a une petite tubulure qui est très très fine, elle fait 2 microns de diamètre. Donc,
mais ça suffit à faire son effet.
Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, quoi.
Voilà.
Et
combien
c'est des centaines, des milliers de cellules urticantes qui vont être déclenchées. Ouais. Et les venins sont parmi les plus foudroyants dans le monde animal.
On me souffle dans l'oreillette que la crème à raser aussi pourrait fonctionner pour les piqûres. C'est ce qu'ils font apparemment au défi à Monte Cristo.
Oui, mais en fait, ne rien faire. Moi, je préfère on peut mettre du vinaigre et on peut surtout mettre de l'eau chaude.
Oui.
C'est déjà, si on fait ça...
Et pourquoi vous avez quelques réticences face à la mousse à raser?
Parce qu'on va mettre de la mousse à raser, après on va gratter, et dès qu'on va être amené à gratter, on peut déclencher d'autres cellules urticantes.
Très bien. Sébastien Lafont, il paraît qu'il existe une méduse immortelle?
Alors oui, il y a une... Oui, alors c'est Turritopsis qui arrive à récupérer sa forme, une forme juvénile de son développement. Et donc on pense qu'elle pourrait répéter ce cycle jusqu'à atteindre l'immortalité. Mais on vient de se rendre compte, les scientifiques de Bergen viennent de se rendre compte que Mnemiopsis, donc le cténophore qu'on a pêché dans les temps de l'or avec Delphine, lui aussi, privé de nourriture, rétrécit jusqu'à reprendre sa forme juvénile, où il a besoin de tentacules pour se nourrir. Donc il se fait repousser des petits tentacules. Si on le renourrit, il regrossit, il perd ses tentacules pour reprendre sa forme adulte. Donc les scientifiques m'ont dit, maintenant, quand on voit un Mnemiopsis dans l'eau, on ne sait pas s'il date de l'année dernière ou s'il a fréquenté Christophe Colomb.
Très bien. Merci en tout cas à tous les deux. Je renvoie sur ce documentaire qui est diffusé en ce moment sur la plateforme d'Arte, dont vous êtes le réalisateur, Sébastien Lafont. Ça s'appelle Méduse, les souveraines des océans. Et merci beaucoup Delphine Thibault d'avoir fait le voyage depuis Marseille pour venir nous parler de vos amours, les méduses.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci Mathieu.